Gloire à Dieu. Donc, on était à la fin du livre de Genèse, la dernière fois, et nous avions quand même été attirés par une révélation impressionnante concernant l'attitude de paix, concernant le refus de la colère. On avait bien vu la dernière fois que Joseph et Jacob étaient des exemples extraordinaires de maîtrise de soi, de refus de la colère, et que ça faisait des années, nous les chrétiens, on a considéré la colère comme quelque chose de normal, de logique. Alors que même si ce n'est pas un péché, ça reste quelque chose de négatif. Voilà, donc, puisque on n'a pas vu en Joseph une quelconque colère, malgré tout ce qu'on lui a fait, Joseph, donc on a clôturé Genèse donc 50, avec Joseph qui dit, « Soyez sans crainte » au verset 19, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc, Joseph n'a pas manifesté de colère, malgré le fait qu'il venait, ces gens-là l'avaient vendu, avaient manifesté une grande méchanceté vis-à-vis de lui. Il n'y a pas eu une réponse par la colère. Et le mardi passé, ça a été le point le plus important, en tout cas pour moi, c'était de constater que mais la colère, même si à la base ce n'est pas un péché, mais ça reste quand même un témoignage de problème spirituel. Voilà, ça reste un témoignage parce que Romains 8, 28 nous dit « Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Puisque tout concourt pour le bien d'un chrétien, lorsqu'il subit des injustices, donc, on a parlé de la colère sous cet angle-là, hein, donc parce qu'il y a la colère de Dieu, mais ce n'est pas parce qu'il a subi une injustice, ça c'est autre chose. Mais le chrétien, lorsqu'il subit une injustice ou il vit des moments difficiles, lorsqu'il se met en colère, cela traduit un problème personnel avec Dieu, un problème de refus d'accepter comment Dieu gère sa vie. Voilà. On n'a pas dit que c'était directement un péché, mais ça pouvait le devenir lorsqu'on pêche, ça peut le devenir lorsqu'on dort avec la colère, ça peut le devenir aussi lorsqu'on refuse de demander au Seigneur la paix, on préfère rester dans cette colère. Toutefois, même le passage que pendant des années, on a pensé que ça montrait la colère de Jésus homme, ben, on a lu ce passage, on a vu nulle part où c'était écrit que Jésus-Christ s'était mis en colère. Donc ce n'est pas parce qu'il a chassé les vendeurs du temple qu'il s'était mis en colère. Ça c'est l'interprétation qu'on a faite de ce passage pendant des années. Mais le mardi passé, on s'est rendu compte, les lectures à l'appui, que nulle part on avait dit que Jésus-Christ s'est mis en colère. Il a chassé les vendeurs du temple, c'est tout. Donc le chrétien devrait travailler chaque jour dans sa vie à vivre sans colère. Parce que la colère témoigne souvent d'un problème intérieur avec Dieu, d'autant plus que c'est écrit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Joseph est un grand exemple pour nous dans ce sens-là, ainsi que Jacob, Isaac aussi, des gens qui subissaient à plusieurs reprises de coups bas de la part des autres, mais qui restaient dans une certaine paix, tranquillité, considérant que Dieu était en charge de tout, Dieu était au contrôle de tout. Donc c'est très important de meubler notre vie du refus de la colère. C'est ainsi que nous pouvons rester proches du Seigneur et lorsque la colère arrive, regardons à nous-mêmes. Souvent, c'est nous qui avons un problème, nous qui nous mettons en colère, même si nous sommes en train de subir des injustices ou bien de calomnie ou je ne sais quoi, mais qui est à notre désavantage, ce n'est pas une raison pour se mettre en colère. Nous devons dire en ce moment-là, Seigneur, aide-moi. Nous devons parfois nous taire, prier, et s'il faut pleurer, pleurer. Et lorsque nous sentons la colère venir, nous prions que Dieu nous aide. Mais ne laissons plus la colère prendre un quelconque pouvoir dans notre vie, prendre une quelconque légitimité. Voilà. Joseph a dit, je ne suis pas Dieu. Voilà. Donc quand on laisse la colère prendre une légitimité dans notre vie, donc on se met à la place de Dieu, c'est lui qui a le droit de se fâcher. Nous, on doit rester à notre place, comme c'est écrit dans Romains 12, soyez vainqueurs du mal par le bien. C'est ça qui est écrit. Voilà. Quelles que soient les souffrances et injustices qu'on peut subir autour de nous. Voilà, donc nous allons maintenant prendre Exode. On va commencer le livre d'Exode. Le livre qui montre l'action de Dieu en Égypte pour libérer les enfants d'Israël et ensuite qui montre la conclusion du contrat entre Dieu et son peuple, ce qu'on appelle l'alliance de Dieu et son peuple. Tout cela est montré dans le livre d'Exode. Donc nous commençons par le chapitre 1er. Christian va nous lire ça.
Exode chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. » Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays.
Voilà, donc je m'arrête là pour faire deux remarques. La première remarque, on voit lorsqu'on cite les noms des fils, donc on respecte bien Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, ce n'est pas l'ordre d'arrivée. Mais on met d'abord les enfants de femmes officielles, ensuite Benjamin, donc de la deuxième femme, Rachel, et ensuite les fils des concubines. Donc il y a quand même un ordre qui est respecté. Et il nous est dit aussi que un pharaon qui n'avait pas connu Joseph, est venu au pouvoir. Donc, la remarque que je peux dire là, c'est que les temps ne seront pas toujours pareils. Donc, on peut être dans un pays où on a conquis un pays entre guillemets chrétien, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Les temps peuvent changer. Donc là, ils étaient en Égypte, bien traités, tant que le roi qui venait avait connu Joseph. Mais il fut un temps où un roi prit le pouvoir, mais lui n'avait pas connu Joseph. À partir de là, les problèmes commencent. Donc il ne faut pas croire que quand on a conquis un terrain, c'est fini. Tant qu'on est sur terre, nous devons être toujours sur le qui-vive, travailler, s'affermir toujours sur l'endroit qu'on pense avoir conquis. Il faut qu'on s'affermisse, il ne faut pas qu'on se dise « Ah oh, bon, ça y est, c'est bon ». On peut négliger, oui.
Oui, bon, tu as répondu là à la fin. J'avais posé la question, qu'est-ce qui fait que ce roi-là n'ait pas connu Joseph? Est-ce que entre l'arrivée de ce roi et peut-être la mort de Joseph, ceux qui avaient connu l'histoire, finalement ne l'ont pas perpétué, ne l'ont pas raconté, du fait que c'est la raison pour laquelle le roi qui est arrivé n'a pas connu.
Bon, moi je peux supposer, c'est une supposition, que le nom de Joseph continue à agir en fonction aussi du comportement des enfants d'Israël après Joseph, qui restait dans une logique ressemblant à celle de Joseph dans son intégrité. Et après, il y a une certaine lassitude qui vient, qui se met en place. La gloire baisse. Voilà, donc la gloire baisse et un roi vient, il n'est pas face à cette gloire-là. Donc il va se permettre des choses. Donc les gens qui sont venus après Joseph, petit à petit, baissaient dans leur relation avec Dieu, certainement. C'est une supposition. Et à un moment, un roi vient, il n'a pas face à lui cette gloire-là que Pharaon avait face à Joseph pour le respecter. Et finalement, il fait ce qu'il veut.
Voilà, j'avais aussi cette pensée, et c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. Et dans ce cas, est-ce qu'on peut faire justement le parallèle par rapport à ce que tu as dit au départ en disant qu'il peut y avoir des régions ou des pays qui ont été conquis à un certain moment donné, mais qu'après les temps changent, justement parce que, si on parle dans le contexte de chrétiens, à un moment donné, les chrétiens ne font plus le travail, qui fait qu'il y a des autorités qui viennent après, finalement, qui ne ressentent pas justement la gloire de Dieu parce que les chrétiens ne sont plus...
Effectivement, c'est ça. Donc on a des cas graves, dans les cas comme toutes les églises qu'on cite dans la Bible, Éphèse, Thessalonique, Corinthe, tout ça c'était des villes conquises par Paul et les autres. Mais aujourd'hui, c'est des villes qui sont sous domination islamique. Éphèse, c'est en Turquie, donc sous domination islamique. Les Damas, toutes ces villes-là qui étaient autrefois, même en Afrique du Nord, des villes comme Carthage, des villes comme... de villes d'Alexandrie, toutes ces villes-là, c'était des villes chrétiennes. Mais aujourd'hui, donc, c'est passé à l'autre camp parce que la négligence, on finit toujours par la payer. Donc, ce n'est pas parce qu'on a conquis un endroit qu'on peut se dire, ça y est, c'est bon, on peut croiser les bras. Non, il faut toujours, comme un verset de Proverbe dit, celui qui manifeste la négligence est le frère de celui qui détruit. Donc, quand on commence à négliger, quand on commence à dire, 1 Corinthiens 10, 12, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Donc, on peut, par négligence, tomber très bas. Et là, petit à petit, la gloire de Dieu diminue. Et un roi vient en place. Il n'a pas connu Joseph. Mais malgré ça, le peuple de Dieu reste toujours le peuple de Dieu. C'est pourquoi, verset 10, le monsieur dit, il faut qu'on soit habile parce qu'ils sont devenus nombreux. Il faut qu'on arrive à les maîtriser de peur qu'un jour, ils se rebellent pour s'en aller. On voit quand même l'idée qui est principale chez le diable, c'est d'empêcher que le peuple de Dieu fasse un corps à part, uni, autonome, parce que ça va, ils vont être très forts pour réduire sa puissance à lui. À l'époque de Joseph, le peuple de Dieu était à part, à Goshen, uni. Et maintenant, avec le temps, ils ont grandi en nombre. Et ces gens-là disent, on ne doit pas les laisser comme ça parce qu'ils risquent de partir. Le diable cherchera toujours à ce qu'on soit dans les environs de son règne pour nous contrôler. Il ne peut pas vouloir nous laisser comme ça indépendants, mis à part, parce qu'il sait qu'il perd beaucoup. Et eux, normalement, puisqu'ils disent que le peuple hébreu est nombreux, pourquoi pas les laisser s'en aller puisqu'il c'est un danger pour eux en Égypte. Non, les laisser s'en aller, c'est perdre. Ils vont perdre de l'intelligence, de la main-d'œuvre. Ils vont perdre aussi de l'intégrité. Ils vont perdre beaucoup de choses. Alors, ils préfèrent les contrôler, les gérer. C'est ce qu'on voit avec les histoires de l'œcuménisme, beaucoup de choses de ce genre-là, où on veut à tout prix nous gérer. On ne veut pas nous laisser tranquilles, vivre notre foi, mais on veut toujours des rapprochements, des ponts, faire des ponts, des sortes à gérer, à contrôler. Et eux, leur problème, c'est qu'il ne fallait surtout pas qu'ils s'en aillent. Et on va retrouver ça aussi dans nos familles, où ils vont chercher à nous rattraper à travers les fêtes traditionnelles, à travers des anniversaires, à travers des choses comme ça, on va vouloir toujours te rattraper parce qu'il ne faut pas que tu t'en ailles loin. Donc, il faut que tu sois toujours tout près là pour pouvoir te gérer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas participer aux fêtes, mais il faut être prudent, rester à part dans le cœur parce que Dieu nous a mis à part. C'est comme ça. On voit que ça commence depuis longtemps. Là, déjà, le Pharaon ne veut pas que ces gens-là s'en aillent. Il veut les gérer sur place, les contrôler et les maîtriser. C'est ça la volonté du diable, l'esprit de contrôle. Contrôler l'homme, contrôler l'humanité. On continue, verset 11.
Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël.
Voilà un élément très important. Nous avons l'habitude de fuir la persécution, d'avoir peur plutôt de la persécution. Mais la Bible nous montre que la persécution n'a jamais freiné l'œuvre de Dieu. Plus on persécute un chrétien, plus il devient fort. Plus on persécute un groupe de chrétiens, plus ils deviennent forts. Au contraire, la persécution a toujours enrichi l'œuvre de Dieu. On le voit en Chine. On prenait des chrétiens, on les poursuivait en voulant les emprisonner ou les tuer. Ils fuyaient. Et quand ils fuyaient, là où ils allaient, ils évangélisaient, ils faisaient d'autres chrétiens. Et ainsi de suite. Et les gens, les historiens racontent que quand on tuait un chrétien, à l'époque de la grande persécution dans la Bible, il y avait 10 qui se convertissaient. Donc la persécution, n'ayons pas peur de cela, parce que beaucoup, quand ils entendent persécution, ils disent toujours, « Pasteur, est-ce que je tiendrai? Quand on va couper mon doigt? Quand on va couper mon oreille? » Est-ce que je... Mais non, plus on est persécuté, plus la puissance de Dieu est grande pour nous fortifier et nous rapprocher de lui. Parce qu'on ne peut tenir que près de lui. Or, plus on est près du Seigneur, plus quand on parle de lui, les gens comprennent. Plus nous-mêmes, on est déterminés. Vous savez, la persécution te fait poser la question, mais pourquoi on me persécute? Et donc, ça t'amène à dire, pourquoi je suis chrétien? Et quand tu réfléchis à tout ça, ah ben, tu t'affermis davantage. Donc, beaucoup de gens, moi, quand c'est au Maroc que je me suis converti. Mais mes parents pensaient qu'en allant au Maroc, déjà, je n'étais pas vraiment chrétien. Donc, en allant au Maroc, ça allait s'aggraver puisque c'était un pays musulman. Mais quand tu arrives là, tout de suite, les gens attaquent le christianisme. C'est là que tu y réfléchis maintenant. Mais c'est quoi le christianisme? Avant, tu n'y réfléchissais pas parce que tu étais au milieu des gens, tout le monde était chrétien, tout le monde priait. Mais tu arrives dans un endroit, maintenant, on commence à dire que le christianisme est mauvais. Ou c'est là que tu te dis, mais non, je vais chercher à savoir c'est quoi. Donc, la persécution n'a jamais freiné l'œuvre de Dieu. La chose qu'on doit craindre, c'est la corruption. Parce qu'aujourd'hui, on est des humains, on a des petites peurs, on apprend qu'une telle personne a été, on lui a fait payer 3000 euros parce qu'elle a dit que l'homosexualité est une abomination. Là, j'ai lu encore il y a quelques jours, une personne encore dans le sud, j'ai oublié dans quoi il est comme parti politique, il a dit ça aussi, 2000 euros. Et on commence à dire, ah, mais non, on va nous vider toutes nos poches par tous ces procès-là. Ne craignons pas, la persécution va ouvrir la porte pour le réveil et la fortification des enfants de Dieu. On dit, plus, c'est écrit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Donc la persécution a toujours avantagé l'œuvre de Dieu. Toujours. Toujours. Nous continuons. Oui.
À ce moment-là, est-ce qu'on doit prier? Parce que c'est vrai, quand on analyse ce qui se passe dans les pays où les chrétiens sont persécutés, c'est vrai que c'est là qu'il y a beaucoup de conversions. Et puis en France, bon, il y a une certaine sécheresse par rapport à l'évangile. Donc est-ce qu'on doit prier pour finalement qu'il y ait des persécutions pour que les gens se réveillent, ou est-ce que c'est une mauvaise prière?
Bon, moi je dis prier pour qu'il y ait des persécutions.
Ou du moins qu'il y ait des choses qui permettent de... Parce que la persécution, ça peut être un outil pour réveiller après les...
Moi, je dirais plutôt bénir Dieu pour les persécutions. Parce que quand on sent que ça vient, moi, quand je vois que non, un tel gouvernement va prendre place, il va éliminer telle aide sociale, il va... Je dis, c'est bien. Comme ça, les chrétiens qui dépendaient des aides sociales pour leur vie, ils vont comprendre qu'il faut dépendre de Dieu et ils vont commencer à prier sérieusement. Donc on bénit le Seigneur. Pour le... Donc là, on entend les histoires de 3 000 euros, 2 000 euros. Au début, ça fait peur. Tu te dis, ah, mais donc, ils vont confisquer nos maisons, nos voitures, parce que quand tu ne vas pas payer, donc ça sera jusqu'à huissier. Mais quand on lit ça, on se dit, mais non, finalement, c'est une bénédiction. Donc, nous bénissons le Seigneur, mais on ne peut pas appeler la souffrance, puisque la solution reste le Seigneur. Appeler un événement, c'est comme si on disait, c'est cette souffrance qui va nous convertir, pas du tout. Parce que dans la souffrance, il y a plein de gens qui vont dans l'autre camp et d'autres se convertissent. Mais la souffrance, au moins, affermit les véritables. Les véritables deviennent encore plus vrais par la souffrance, par la persécution. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Bénir le Seigneur quand il y a la persécution. Voilà, c'est ce qu'on doit faire. Quand on sent que ça vient, on dit gloire à Dieu, ça commence à venir les crises. Parce que les vrais chrétiens en ce moment-là vont se réveiller et vont devenir très forts pour sauver beaucoup de gens et travailler vraiment sérieusement. Oui.
Oui, ça c'est par rapport aux chrétiens et par rapport aux païens, aux gens de la famille, tout ça. Des fois on prie, on dit que Dieu crée des chocs dans des situations qui vont les pousser, les amener à réfléchir, à se convertir. Ça, c'est créer aussi des...
Mais le choc, ce n'est pas forcément la souffrance. Donc, c'est Dieu lui-même qui sait comment il peut toucher un cœur. Nous, on peut demander des chocs, qu'ils soient secoués, qu'ils soient agités, mais on ne peut pas demander la souffrance parce que ce n'est pas une garantie, ce n'est pas la souffrance qui sauve. C'est Jésus qui sauve toujours. Donc, mais on peut réclamer des chocs pour qu'il se réveille, pour qu'il soit attentif. Ça peut être aussi un miracle. Donc, il y a des gens qui sont sauvés parce qu'ils ont vu un miracle. Et ça les a réveillés à être attentifs à la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement la souffrance. Voilà. Dieu lui-même sait comment il mélange tout ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est bénir le Seigneur quand on voit des persécutions arriver, des difficultés, des tribulations contre nous. Ça veut dire que le Seigneur se prépare à agir puissamment et ça va secouer, réveiller les chrétiens qui dormaient. Nous continuons.
Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Poua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles.
Amen. C'est ça la réalité. C'est que plus on résiste, plus l'autre camp va sortir de ses limites. Mais c'est nécessaire. Parce que pour que Dieu agisse pour nous, c'est-à-dire frapper l'autre camp, Dieu doit avoir une justification. N'oubliez pas que Dieu est bon. Donc tel qu'il nous aime, il aime aussi les gens qui nous font du mal. Donc il ne faut pas penser que parce qu'ils me font du mal, automatiquement Dieu les frappe. Ça c'est une erreur, parce que Dieu est amour. C'est pourquoi dans notre résistance, ça va les amener à sortir hors d'eux-mêmes pour accomplir des abominations qui vont obliger Dieu à réagir. Donc plus on résiste, plus ces gens-là, leur colère augmente. jusqu'au point où ils vont sortir de leurs limites. Ils vont devenir hors contrôle. Et comme ils vont devenir hors contrôle, Dieu est obligé d'intervenir. Et c'est ce qui s'est passé avec Aman. Mardoché ne s'agenouillait pas devant lui. Aman a été dépassé par la colère. Il a tout fait pour que Mardoché s'agenouille devant lui. Mardoché résistait. Alors, il est sorti de ses gonds. Il est sorti de ses limites. Il a décidé de tuer tous les Juifs. Vous vous imaginez donc, juste quelqu'un, une seule personne ne s'agenouille pas devant toi. Tu veux tuer des millions de personnes. Et dans toutes les provinces, pas seulement là où ils étaient, dans toutes les provinces. Pas seulement à Suse. Donc vous voyez, il est sorti de lui. Qui d'autre est sorti de lui? Hitler. Il est sorti de lui. Il a décidé la solution finale. Parce qu'il trouvait que, malgré le fait qu'on tuait les Juifs avec les fusils, ils étaient toujours là. Alors, ils ont fait une réunion spéciale. Ils ont décidé ce qu'on appelle la solution finale. Regrouper physiquement tous les Juifs, partout où ils sont, et les amener pour des tueries de masse. Parce que vous savez que les Allemands qui tuaient avec les fusils ont fini par refuser à un moment donné. L'homme est l'homme. Ce n'est pas un esprit. L'homme a des sentiments. Donc, les Allemands qui tiraient ont fini par dire « Non, on ne peut pas éliminer des humains comme ça. » Alors, il fallait trouver un système qui fasse que la personne qui amène le juif et la personne qui tue ne soient pas les mêmes. Donc, quelqu'un prend le juif en train, il y a un qui s'occupe de leur prendre le vêtement, il y a un qui s'occupe de les amener dans les chambres à gaz, il y a un autre qui s'occupe d'appuyer sur le bouton. Lui, il ne voit pas les humains, il appuie seulement sur un bouton. Parce que les Allemands, malgré leur méchanceté, ils étaient plus d'accord de tuer des humains comme ça. Donc, c'est ce qu'ils ont imaginé, ce qu'ils ont appelé la solution finale. Donc, ils sont sortis hors d'eux, ils sont devenus fous. Et c'est ce qui se passe. Donc, quand nous résistons, les gens vont sortir hors d'eux. Il faut que nous apprenions, même dans l'évangélisation, à ne pas trop taper, mais à beaucoup plus résister en manifestant une belle foi en Christ. C'est-à-dire, les gens, devant notre assurance et notre paix, ils vont sortir hors d'eux. Moi, c'est ce que j'attends toujours dans l'évangélisation. Je dis une parole, je laisse beaucoup plus la personne parler parce que je sais qu'il va finir par se fâcher. Parce que l'assurance, quand je vais sortir des versets bibliques, c'est lui, qui, comme la personne qui a voulu m'obliger à accepter la polygamie comme étant biblique. Il me donnait un passage biblique, je lui renvoyais un passage biblique. Et j'attendais le moment où il va se fâcher. Il me envoie un passage biblique, je lui redonne un passage biblique. À un moment, il me répond, toi, tu es ignorant, tu ne connais rien. Ah, il s'est fâché, j'ai dit, voilà. Donc, en se fâchant comme ça, ça veut dire qu'il est touché. Voilà, ça veut dire qu'il sort hors de lui, donc il reconnaît que sa base n'est pas forte. Parce que celui qui a une bonne base ne se fâche pas. Parce qu'il sait qu'il est bien. Voilà. Vous imaginez bien, aimé, vous êtes milliardaire. Et quelqu'un veut faire avec vous, quelqu'un que vous voyez juste un fonctionnaire simple, il veut faire un concours de voiture ou de vêtements avec vous. Vous rigolez, vous n'allez pas prêter. Vous allez garder votre tranquillité. Mais c'est les gens qui n'ont rien du tout qui s'agitent. Donc il faut qu'on résiste, qu'on manifeste une belle foi en notre Dieu, une vraie assurance. Tôt ou tard, la personne qui est en face va se fâcher parce qu'elle va être déstabilisée. Comme une fois, les témoins de Jéhovah aussi s'étaient fâchés parce qu'ils discutaient, ils faisaient de grandes démonstrations. Moi, je prenais un verset biblique, on lisait le verset biblique. Ils ont fini par dire, mais vous, vous êtes comme un enfant, vous êtes bête, vous croyez en tout. Moi, je dis, ah voilà, vous avez compris, je crois en tout ce qui est écrit. Donc, ils ont plié, fait leur clic et clac, ils ont fui. Voilà, parce que ils ont fini par voir que là, il y a de la résistance. Et c'est ce qui se passe là. Donc, à force de se multiplier, d'être toujours glorieux, le pharaon est sorti hors de lui. Oui.
Justement, dans la résistance, le fait de résister, c'est vrai que ça va animer la colère de ceux qui combattent, comme ça a été le cas de Haman, mais ça peut aussi animer la colère de ceux qui se disent chrétiens, dans le sens où, à cause d'un seul homme qui a refusé de fléchir les genoux, c'est tout le monde qui prend. Donc la persécution que tous les chrétiens peuvent subir, parce qu'il y en a qui continuent à résister en ce qui concerne l'homosexualité, le mariage, les homosexuels, ainsi de suite, qui va faire qu'on va mettre les chrétiens dans le même sac et qui fera que ceux qui résistent seront aussi persécutés quelque part par ceux qui ont choisi de dire « Bon, écoutez, c'est pas grave, on va laisser passer comme ça les chrétiens, je parle. »
Oui, non, mais ça, c'est les gens qui ne sont pas bien positionnés. Ils vont combattre comme on a vu à l'époque de Gédéon. Gédéon, quand il a renversé le porteur de Baal, ce sont ses propres frères qui sont venus dire « Mais Gédéon, qu'est-ce que tu fais? Tu nous crées des problèmes. » Mais quand ils ont vu la détermination de Gédéon, eux-mêmes, ils ont changé après. Quand on a voulu venir menacer leurs frères, ils ont dit que celui qui les touche va sentir. Donc eux-mêmes, donc au début, les chrétiens pas très positionnés, ils ont peur. Mais quand ils voient aussi notre détermination, ils finissent par nous rejoindre. Sauf les faux frères, les faux chrétiens, eux, ils resteront toujours dans l'autre camp. Mais les chrétiens tièdes, pas très bien positionnés, quand ils voient que non, le camp de Dieu est le plus fort. Ça se sent, ils sentent que non, c'est le moment que nous aussi, on s'affermisse. Et c'est ce qui se passait même aussi du temps d'Esther. Quand les gens ont vu que Esther leur a dit, « Priez pour moi, on va jeûner. » Tout le monde s'est réveillé. Donc, il y a eu un réveil chez les Juifs par rapport à leur Dieu. Oui.
Oui, pasteur, par rapport à la persécution, est-ce que le fait de prier pour que le Seigneur épargne des vies est vraiment une bonne prière? Lorsqu'on lit, par exemple, dans Apocalypse 6, verset 9, ce passage qui m'a vraiment interpellé, je vais le lire rapidement. Quand il ouvrit, c'est lors de l'ouverture des sept sceaux, au cinquième, on dit « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, quelque part...
Ah, donc
oui,
j'ai fini.
Là, j'ai fini la lecture, oui.
D'accord. Oui, moi, je ne pense pas que ça soit mauvais. Donc, de dire, « Seigneur, sort-elle de la prison, épargne sa vie, parce qu'on est on veut l'avoir comme frère toujours dans le travail, ainsi de suite. Mais toutefois, quand Dieu ne nous exauce pas, qu'on soit en paix, Dieu a fait sa volonté. C'était le temps de cette personne-là d'être immolée en martyr pour le Seigneur. Parce que quand Pierre était en prison, ils ont prié pour qu'il sorte quand même. Donc on peut prier parce que c'est l'élan de notre cœur. Ça ne contredit pas la parole. Mais toutefois, quand l'événement contraire arrive, que l'on en soit fortifié. Comme les chrétiens étaient fortifiés quand on livrait les autres aux lions, ils étaient mangés. Au lieu que, comme on a dit, ils baissent, ils grandissaient dans leur foi et 10, une personne mourait, 10 se convertissaient. Donc je pense que chacun suit l'élan de son cœur. Si on est poussé à prier pour qu'un pasteur en Chine sorte de prison ou sa vie soit épargnée parce qu'il y a un qui est condamné à mort, donc on suit l'élan de son cœur. Mais toutefois, lorsque la personne subit la mort à cause de Christ, on se réjouit.
Oui, moi je voulais juste rajouter que, enfin, comme Jésus-Christ il avait fait une prière aussi, il avait dit à Dieu « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Donc ça veut dire, en fait, on peut prier pour que quelqu'un ne meure pas.
Ah non, c'est pas ce mal-là. Hein. Quand il dit de les préserver du mal, ce n'est pas qu'il ne meure pas. Hein. C'est dans le sens qu'il ne soit pas contaminé par le mal. Hein. Que le mal n'ait pas une... Voilà. Donc, nous continuons chapitre 2.
Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon. » Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux.
Amen. Voilà, entre parenthèses, Moïse, c'est vraiment parce que les gens disent « Oh, il n'y avait pas eu les enfants d'Israël en Égypte ». Les faux historiens d'aujourd'hui, les faux savants d'aujourd'hui. Mais déjà, rien que le mot Moïse a des semblables en Égypte. Hein, je crois dans l'histoire, vous avez entendu des rois comme les Toutmès. Toutmès, en réalité, ce n'est pas Toutmès, c'est assez francisé comme ça, c'est Toutmosis, c'est pas Toutmès. Donc rien que, il y a au moins 2 rois qui ont Moïse à la fin de leur nom. Donc ça montre bien que ce n'est pas inventé cette histoire, c'est bien un terme égyptien, Moïse, donc Moshe tiré des eaux. Et nous revenons au fait que, cette fois, alors que les autres enfants sont tués, la maman de celui-ci dit non. Et dit, je ne tue pas cet enfant. Et on a déjà prêché là-dessus, c'est que Moïse n'est pas sauveur le jour où il rentre de chez Jéthro pour venir libérer le peuple d'Israël. Dès sa naissance, Dieu a déjà un plan pour Moïse. Donc quand il vient bébé, il vient avec le salut déjà. La preuve, c'est que sa maman dit non, on ne le tue pas et on l'a préservé. Et on l'amène dans l'eau. Il y a les crocodiles, il y a beaucoup de choses sur le Nil. Rien ne lui arrive. La femme, la fille de Pharaon, qui est la fille de celui qui veut tuer les bébés, récupère l'enfant, ne le tue pas. Donc on voit bien que quand Dieu a décidé son salut, rien ne peut s'opposer à cela. Il a décidé son salut. Il faut qu'on ait cette foi-là. Et puis, deuxième élément, il faut qu'on ait conscience de la puissance de Dieu. J'aime le verset où l'apôtre Paul dit « Afin que votre foi soit basée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dieu est tout puissant. » Il n'y a pas de raisonnement qui marche avec l'action de Dieu. C'est sa puissance. Un point, c'est tout. Comment tu peux vivre chez ton ennemi? Normalement, c'est le pharaon même qui devait le tuer, mais Moïse vit chez le pharaon. C'est anormal, mais c'est ça la puissance de Dieu. Dieu est tout puissant. Et nous devons faire confiance en cette puissance dans tous nos défis. Nous ne devons pas raisonner humainement en disant, mais ah, il est parti chez Pharaon, c'est fini. Mais non, Dieu est tout puissant pour le préserver, même là où il est. On a pour certains événements où parfois les gens qui nous sont chers sont ailleurs. On se dit, mais là-bas, c'est la mauvaise éducation, là-bas, c'est ceci. Mais bien aimé, quand Dieu a décidé que son action doit se faire, ça va se faire partout. Comme je vous ai dit, moi, je me suis converti au Maroc. Je ne suis pas le seul. Beaucoup de personnes sont parties comme ça, dans des pays lointains, islamique, eh bien, c'est là-bas qu'ils se convertissent. On a, je ne sais pas si on a déjà suivi le témoignage de ce pasteur qui s'est converti en, vraiment en arrivant en Arabie Saoudite. C'est là qu'il était chrétien théorique comme ça, comme dans beaucoup de pays. C'était un Philippin. Mais c'est là qu'en arrivant en Arabie Saoudite qu'il se convertit par révélation du Seigneur. Donc, la puissance de Dieu n'a pas de limite. Donc, quand on est en train de travailler pour lui, nous ne devons pas nous mettre nous-mêmes des obstacles. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Et on voit ça avec le cas de Moïse. Autre chose qu'on peut remarquer là, c'est quoi? C'est que l'arme que le diable va vouloir utiliser contre les enfants de Dieu, c'est la même, c'est par cette voie-là. La voie par laquelle le diable passe ou les ennemis de Dieu passent, Dieu va utiliser la même voie pour le confondre. Donc, quelle était la voie du diable? C'est tuer les bébés. Eh bien, Dieu va sortir un bébé qui va être intuable. Donc là, on ne peut pas le toucher. Et c'est par un bébé qu'il amène son salut. C'est la même voie. On a vu Goliath. C'était par Goliath que les Philistins voulaient écraser une fois pour toute Israël. Donc, il passe là, il dit, si vous me donnez un combattant, on livre bataille. Si je gagne, vous perdez complètement le combat. Donc, il n'y aura même plus combat. Moi, j'ai gagné, c'est fini. Si vous gagnez pareil, eh bien, c'est par Goliath que finalement, Dieu donne une victoire éclatante. Donc, c'est comme ça que nous devons comprendre. Donc, nous ne devons pas dire, ah, ben, il passe par là. La Bible dit, Dieu prend les sages à leur propre ruse. La manière par laquelle ils passent, la voie qu'ils empruntent pour nous attaquer, ça sera cette voie-là que Dieu va utiliser pour nous sauver. Donc, c'est pourquoi nous devons nous réjouir. C'est ce qu'on est en train de dire là. La voie du mal, c'est la voie du salut. Nous devons nous réjouir. Et qu'est-ce qui est dit? Même, donc, j'ai cité Goliath, il y a la statue de Nebuchadnezzar. C'était ça pour éliminer la foi des Juifs. Mais c'est par cette statue-là que les Juifs ont été élevés. Il y a Aman lui-même. Aman devait éliminer tous les Juifs. Mais c'est par cette histoire, à cause de cette histoire d'Aman, que les Juifs ont été élevés. On connaît la puissance du diable sur l'homme. Le diable voulait détruire la gloire de Dieu en détruisant l'homme. Ben, c'est par un homme que Dieu triomphe du diable. C'est ce qui est écrit dans Genèse 3:15. Tu lui blesseras le talon, mais lui, il crasera ta tête, la descendance de la femme. Le diable est passé par la femme pour détruire l'humanité, mais c'est par la descendance de la femme qu'il est aussi vaincu. C'est comme ça que Dieu agit. Le diable a voulu passer par l'homme pour affronter Dieu, mais Dieu triomphe du diable par les hommes. Ce n'est pas moi qui le dis, Éphésiens 3.10. On va lire ça, Éphésiens 3.10. Éphésiens 3.10.
Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu.
Amen. Qu'est-ce que ce passage dit? C'est que Dieu va démontrer sa puissance par qui? Par l'Église. C'est par l'Église que Dieu démontre sa puissance. Ce qui fait que, bien-aimés, ne nous sous-estimons pas. Ce n'est pas que nous soyons grands, mais Dieu a décidé de vaincre le diable par nous. C'est comme ça. Donc, l'instrument que le diable voulait utiliser pour nuire à Dieu, ben c'est ce même instrument, l'homme, que Dieu va utiliser contre lui. C'est ça la réalité. Donc, ne nous décourageons pas. L'instrument de l'ennemi, c'est ça notre instrument de victoire. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Et nous continuons Exode 2.11.
En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense, et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Reuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Appelle-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger.
Amen. Voilà, donc là, nous remarquons à partir du verset 11, qu'est-ce qui est dit ? En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Nous voyons ce qui est écrit dans Hébreux 11. Moïse, malgré le statut de prince en Égypte, a préféré ses frères qui étaient devenus des esclaves. Il n'a pas eu honte de ses frères. Donc c'est très important. Donc peut-être qu'on va lire ce passage-là dans Hébreux 11. Parce que le but, c'est de faire tous ces liens-là pour que nous voyons l'unité de la parole de Dieu. Hébreux 11, au verset 24-25.
C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché.
Amen. Voilà, ça c'est quelque chose que beaucoup n'arrivent pas à faire, à accepter d'être identifié au peuple de Dieu plutôt qu'à un milieu huppé, un milieu où ils sont élevés. Moïse a préféré être vu comme un juif, un membre du peuple de Dieu, même s'ils étaient esclaves. Ça c'est très important, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui aura honte de lui, lui aussi il aura honte quand il reviendra avec ses saints anges. Donc, c'est très important, cette notion d'avoir honte de Dieu. C'est très important. Moïse montre son amour pour le plan de Dieu, comme on avait dit dans les précédentes séances. Donc, comme Jacob a préféré le plan de Dieu, vous allez m'enterrer à tel endroit parce que le plan de Dieu, c'est comme ça. Donc, Moïse préfère le plan de Dieu plutôt que le succès dans le monde, plutôt que... Vous savez, préférer le plan de Dieu, c'est aussi quoi ? C'est que tu as des aptitudes physiques, tu as des aptitudes intellectuelles, tu as des aptitudes, tu as des facilités, mais que tu n'utilises pas pour rester dans le plan de Dieu. C'est ça. Moïse a préféré cela plutôt que profiter de son titre de prince. Et ce qui est dur avec ces choses-là, c'est que tu préfères le plan de Dieu, mais tu es quand même rejeté. Parce qu'on a entendu beaucoup de gens dire, « Ah, moi j'ai quitté le monde, je viens dans l'église et je trouve encore des problèmes à l'église. » Mais tu n'es pas le premier, mon cher, ma chère. Moïse, toi tu n'es pas comme moi. Est-ce que toi tu as défendu quelqu'un pour et tu as tué un Égyptien ? Non. Moïse a défendu son peuple au point de tuer un Égyptien, de se mettre dans les risques. Mais malgré tout, on le rejette quand même. On dit, mais qui es-tu ? pour commencer à devenir notre juge, notre berger. Il est rejeté. Mais est-ce que Moïse a renié son peuple? Non. Beaucoup de gens disent, mais moi je croyais que dans l'église ce serait différent. Mais non, mais fais ceci. Mais oui, mais tu n'es pas le premier. Tu n'es pas le premier. Moïse a subi ça, mais Moïse a fait plus que toi. Parce que Moïse a pris le risque d'être tué, d'être arrêté pour son peuple. Mais toi, tu n'as pas pris cela, ce risque-là. En tout cas, à ce jour, en France, on n'a pas encore ce problème-là. Mais moindre problème, on fait comme si le mont Everest s'est écroulé. Non, Moïse a pris le risque. Mais cependant, il est quand même rejeté. Donc un jour, tu seras appelé à être pasteur, à être ancien encadreur. Comprends que les gens à qui tu feras du bien, parfois, ça va être des gens que l'ennemi va utiliser pour te nuire d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut renier les enfants de Dieu? On entend ça et là des gens dire, ah moi je préfère, des gens qui ont des entreprises, moi je préfère pas travailler avec les chrétiens vont mettre le côté frère, et puis voilà l'entreprise ne va pas marcher. Moi j'ai dit non, c'est faux tout ça. C'est une mauvaise lecture de la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, un frère c'est un frère. C'est pas de la blague, ce n'est pas de la théorie. Maintenant, on ne va pas toujours être à 100% à l'aise avec les bien-aimés parce qu'on est encore sur terre. Mais cependant, nous ne pouvons pas sortir du plan de Dieu à cause de cela. Moïse a été rejeté par ses frères alors qu'il a pris des risques pour eux. Donc il faut bien-aimés qu'on soit prudent dans nos langages, dans notre façon de faire. Restons membres du peuple de Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'on nous fasse, quel que soit le rejet qu'on va subir d'une manière ou d'une autre, restons membres du peuple de Dieu. C'est très important. Moïse a préféré le peuple de Dieu plutôt que vivre sa vie égoïstement dans le succès et dans la gloire. Nous continuons, 23-25.
Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion.
Amen. Dieu regarda les enfants d'Israël et en eut compassion. Ça nous rappelle psaume 34, verset 7. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Finalement, le salut est simple, quoi. Il suffit d'être malheureux et tu es sauvé. Mais il suffit d'être malheureux et crier, gémir. Parce qu'il y a beaucoup qui sont malheureux, mais qui sont toujours forts. Ceux-là ne peuvent pas être sauvés. Quand quelqu'un est esclave de 2 paquets de cigarettes par jour, mais qui fait l'orgueilleux, il se dit « Ah, mais c'est pas grave, c'est ma vie, tout ça. » C'est quelqu'un qui est en réalité malheureux, mais il ne veut pas l'accepter. Mais les malheureux qui se reconnaissent comme tels vont automatiquement gémir et en gémissant, Dieu va avoir pitié d'eux. Donc, bien-aimés, n'ayons pas honte d'être malheureux. Parce que c'est ça qui bloque, cette honte-là que nous avons d'être malheureux, ça bloque l'action de Dieu dans notre vie. Satan, c'est lui qui nous communique la honte. Tu as commis un péché, il va te maintenir dans la honte pendant 2 semaines, 10 jours, comme ça. Cette honte-là, qui est une traduction d'un certain orgueil, empêche Dieu de te voir comme un malheureux parce que ta honte est comme une force. Au fait, le fait que tu te condamnes, ça fait de toi quelqu'un quand même de parfait malgré ton erreur. Et donc, c'est de l'orgueil. Je ne dis pas que la honte est directement mauvaise, mais elle devient mauvaise lorsqu'elle nous empêche de vivre le plan de Dieu. Et donc là, quand il y a la honte, on doit se repentir et se souvenir que Christ a souffert pour nous. Et qu'il a subi des choses graves, plus graves même que notre péché. Et à partir de là, on accepte notre petitesse et on cherche le relèvement. Mais quand on reste quelque part dans la chute, parce que la honte est grande, c'est de l'orgueil. Nous devons reconnaître notre faiblesse, gémir, crier. Et tant qu'on ne le fait pas, on bloque le salut de Dieu dans nos vies.
Pasteur, le fait d'être malheureux et d'avoir honte, est-ce que il y a des moments aussi, il y a le sentiment de manquer de foi, d'être malheureux par rapport à une situation?
Là, oui, même quand notre foi baisse, mais le fait qu'on pleure, c'est important. Le fait qu'on crie, on gémisse, on dit « je souffre », mais c'est important. Quand notre cœur crie, parfois il y a des gens même qui ne crient pas comme ça physiquement, mais leur cœur souffre. Et à cause de cette souffrance-là, le Seigneur agit. Ce qui n'est pas bien, c'est entrer en rébellion vis-à-vis de Dieu. Mais tant que c'est juste l'expression d'une souffrance, ça c'est bon.
C'est pas un manque de foi alors?
De manifester la souffrance.
Oui.
De manifester qu'on souffre, c'est pas un manque de foi, on souffre. On manifeste qu'on souffre. Voilà. Maintenant, ce qui n'est pas bon, c'est quand Dieu vient t'aider, tu refuses. C'est ça qui ne serait pas bon. Mais quand on manifeste la souffrance, c'est ce qui est écrit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Voilà. Quand un malheureux crie, on n'a pas dit quand un chrétien, quand quelqu'un est malheureux, le Seigneur voit. Où que ça soit. Et il commence une action pour sauver cette personne. Ce qui empêche les gens d'être sauvés, c'est que dans leur malheur, ils restent forts. Ils veulent montrer qu'ils maîtrisent la situation, qu'ils gèrent, qu'ils... Ah, à partir de là, Dieu ne peut rien faire. Mais quand ils crient, Dieu entend. Voilà. Oui.
L'exemple que tu as donné par rapport à la cigarette, quelqu'un qui est esclave et qui croit être bien et ne va pas crier, ne va pas se dire qu'il est esclave, est-ce que tu penses que c'était le même cas pour, je pense que tu en avais déjà parlé une fois, pour les enfants d'Israël, c'était ça, tu penses que toutes les souffrances là qu'ils subissaient, ils n'avaient jamais crié, c'est seulement après je ne sais pas combien d'années et Dieu entend?
Oui, oui, ils criaient. Donc ils étaient là en train de souffrir, mais tout en vivant bien aussi. Donc comme ce monsieur-là qui est parfois parti voir le médecin lui a dit ça ne va pas, mais sa cigarette le calme, quand il se fâche, il fume, il se sent un peu plus ou moins fort. Mais il n'y a pas encore ce cœur-là qui dit « j'en ai marre, je souffre ». Voilà, il n'y a pas. Le voleur à la croix, il était crucifié, mais il continuait à faire l'orgueil. Mais l'autre a crié, a dit « Seigneur, sauve-moi ». C'est cela. Les gens peuvent souffrir tout en restant forts. Tout en restant fort. On a vu ça à la télé. Quelqu'un, une femme en maison de retraite, donc elle est visitée par une femme fait le tour des maisons de retraite en jouant à la guitare. Et puis, elle fait ça bénévolement. Et la dame lui dit, mais vous voulez que je vous fasse un chèque? Peut-être que même la force de faire le chèque, elle l'a presque pas. Mais elle se dit, j'ai un compte bancaire. Donc, malgré son impotence, elle se dit, j'ai un compte bancaire. Voilà, elle a quand même le souvenir d'avoir un compte bancaire alors qu'elle est devenue impotente. C'est ça, l'homme reste fort alors qu'il n'est plus... Dieu ne peut pas intervenir là. Dieu intervient quand la personne dit « je suis fatigué ». Voilà, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc il ne faut pas avoir honte de dire « je suis fatigué de tel péché, je suis fatigué de telle vie, je suis fatigué de tel... » Voilà, il faut le dire, « Seigneur, je souffre ». Il n'y a pas de honte à cela. Oui. Non.
Tu peux donner un exemple dans lequel la honte ne serait pas quelque chose de mauvaise? Parce que tu disais pas que la honte était quelque chose de mauvaise.
À chaque fois qu'on pêche, il y a une certaine honte qui est là. Donc c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est que quand on refuse maintenant de demander l'aide de Dieu.
Parce que je pense que la honte est une attitude de manque de foi.
J'ai pas compris.
La
tu me
honte,
poses la question,
ou bien
tu dis.
Non, je pose la question. Parce que, à ce que je sache, la honte, c'est un manque de foi.
Ah non, quand tu es sale, tu as honte. C'est, par exemple, il y a des gens qui viennent, on entend que ça sonne. Mais toi, tu ne t'es pas lavé, tu te retrouves avec des guenilles, mais tu as honte. Ça te permet de voir, de bien réaliser ton état d'irrégularité. Voilà. Mais là où ça devient mauvais, c'est lorsque on ne veut pas s'humilier, mais on veut jouer au fort. Mais donc, ça doit nous servir d'indicateur pour voir notre saleté, mais pas pour nous abandonner dans cette saleté-là. Donc, c'est là, à ce moment-là, que la honte devient mauvaise. Maintenant, la honte devient orgueilleuse lorsque on passe notre temps à se condamner, à nous condamner, à nous condamner. Là, c'est l'orgueil. Ce n'est plus... Donc, la honte et l'orgueil vont ensemble. Là, ce n'est pas bon. Oui.
Je disais par rapport à le malheureux qui crie. Maintenant, si la personne est orgueilleuse, comme on est en train de dire là, mais nous qui prions pour ces gens-là, est-ce que le Seigneur entend quand même nos cris à leur place?
Il entend nos cris et il va briser leur cœur jusqu'à ce qu'eux aussi crient. Donc nos cris vont servir à les amener eux aussi à crier. C'est ça. Voilà. Donc on a vu les quatre messieurs qui ont porté le paralytique. Ils ont creusé le toit, ils l'ont descendu. Il était abattu. C'est pourquoi Jésus a dit « tes péchés sont pardonnés ». Donc il n'était pas bien. Il était, voilà, il a crié dans son cœur, Jésus a vu son cœur, elle dit tes péchés sont pardonnés. Oui.
Oui, pasteur, je voulais savoir de quel malheur on parle exactement, d'un malheur charnel ou spirituel?
Quand tu souffres, Dieu est intéressé. Et que tu cries, il est intéressé. Ok. Voilà, donc, bien-aimés, n'hésitons pas à manifester à Dieu que nous souffrons parce qu'il veut agir pour sauver et il a besoin que nous soyons sincères. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 16, 24, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait demander à Dieu, mais on veut les régler par nous-mêmes. On veut le régler dans une logique d'orgueil. On veut dire, ben, c'est moi l'homme, c'est moi ceci, c'est moi, je suis professeur, je suis ceci. Donc, ça doit se passer comme ça. Moi, je m'appelle un tel. Ben, donc, et on ne prie pas. Au lieu de dire simplement à Dieu, j'ai échoué. Et au lieu de dire simplement à Dieu, ça ne marche pas. Mais on va continuer à vouloir lutter, à faire semblant, à faire... Et on perd du temps, on perd du temps. On voit combien de temps ils ont perdu, combien de temps malgré les travaux qu'on mettait sur eux. Bon, ils souffraient, mais ils n'étaient pas arrivés au point de gémir, de dire on n'en peut plus. Et là, il est écrit, quand ils ont crié comme ça, Dieu a regardé. Il a eu compassion d'eux. Mais c'est là que, comme tu as dit par rapport aux prières, il s'est souvenu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà, donc c'est le père de ces gens-là qui ont été fidèles à lui. Donc en ce moment-là, il y a une connexion entre nos prières et le gémissement de ces personnes-là. Et Dieu agit puissamment. Donc c'est ce qui s'est passé là. Donc nous ne devons pas hésiter, bien-aimés, à gémir. Nous ne sommes pas appelés à faire des cris de joie. Et quand ça ne va pas, n'hésitons pas à pleurer et à gémir devant le Seigneur. Le Seigneur agira. Donc, il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites de prières, des supplications. Les supplications, c'est ça, c'est des gémissements. Voilà, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. On va clôturer dans la prière. Seigneur, merci pour... ces passages qui nous amènent à réaliser la puissance de ton salut. Moïse était juste un bébé, mais il était déjà ton salut. Il était déjà le sauveur. Et nous ne devons pas regarder à notre petitesse, parce que malgré notre faiblesse, malgré notre petitesse, du moment que nous sommes de toi, Seigneur, nous sommes comme le salut du monde, nous sommes comme le sel, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Aide-nous, Seigneur, à réaliser ta puissance, à ne pas marcher selon la sagesse humaine, mais selon ta puissance qui a fait que Moïse était berger chez son ennemi. C'est son ennemi qui a payé sa propre maman encore pour l'élever. Seigneur, on voit combien ta puissance est inimaginable. Aide-nous à marcher dans cette logique-là, à ne pas regarder à la grandeur des obstacles, à la grandeur des difficultés, à la grandeur des défis, mais à regarder à ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons, Seigneur, que tu nous aides aussi à être humbles. Que l'orgueil et la honte ne nous empêchent pas de gémir et de te dire ce qui ne va pas. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.